Chapitre 26. Le néon bleuté des urgences de l'hôpital d'Orsay. Des lumières ça et là dans les chambres qui faisaient penser à un paquebot en perdition au milieu de l'océan. Et un bourdonnement permanent de ventilation émanant des énormes chaufferies quelque part. Florence était sortie fumée, emmitouflée dans sa grosse veste en laine et son écharpe. Ces endroits l'avaient toujours fait déprimer. Les odeurs dans les couloirs vides, les tuyaux dans les veines, ces malades au teint jaune qui déambulaient en pyjama. C'était ici, contre une autre forme de violence, de criminalité, celle de la maladie, des virus, des cancers, que des médecins se battaient, souvent en vain. Elle considéra le bout rougeoyant de sa cigarette et se dit qu'elle finirait par y passer un jour, elle aussi, le plus tard possible. Avec un rire nerveux, elle tira une dernière longue bouffée avant de retourner à l'intérieur. Elle n'avait eu aucune nouvelle de Titi ni des autres depuis la veille. Ses coups de fil au bureau étaient restés sans réponse. Pourquoi ? Qu'avait-il découvert dans le puits ? Pourquoi les parents n'étaient-ils pas encore venus rendre visite à leur fille ? En passant devant les cabines téléphoniques du hall, elle hésita. Elle disposait du numéro personnel de son chef, mais il était 6 heures du matin. Celui-ci avait une femme, des gosses, et le droit d'avoir une vie privée. Elle remonta au 3e étage d'un pas traînant et entra dans la chambre 319. Delphine était revenue d'une interminable série d'examens 2 heures plus tôt. On lui avait administré des sédatifs pour qu'elle se repose. Les toubibs n'avaient rien voulu dire avant d'obtenir tous les résultats. Ils lui avaient demandé d'être patiente. Il n'y avait pas plus patient qu'un flic. Florence s'installa dans le fauteuil à gauche du lit et observa la victime avec tristesse. Elle n'était plus la jeune femme au physique agréable, pleine d'énergie et d'imagination, qu'avaient décrite ses connaissances. Elle semblait tout droit sortie d'un camp de concentration. Ses cernes étaient noires et profonds, son nez saillait tel la lame d'un couteau, et ses pommettes cherchaient à percer la peau. Et puis Charcot avait vu juste avec ses histoires de problèmes sexuels du tueur. Delphine avait été méticuleusement rasée, y compris en bas. Imberbe de la tête aux pieds. Violée avec des godemichets. Et surtout, enterrée vivante. Le pire des supplices. Elle qui se plaignait de son divorce en cours ou du machisme des gros abrutis du 36... Putain de monde pourri. Elle baissa les paupières. Le bip hypnotique de l'électrocardiogramme la plongea dans un état de léthargie. Elle pensa alors à des airs de violon. La valse numéro 2 de Shostakovich. Le printemps des 4 saisons de Vivaldi. Oublia que tout allait mal et rouvrit les yeux en sursautant, la bouche pâteuse. Un médecin avait posé une main sur son épaule. Le nom sur la blouse indiquait « Docteur Dansel ». Florence émergea, lorgna l'horloge. Plus de 2 heures avaient passé. « Excusez-moi, docteur, je... pour vous, » dit l'homme en lui tendant un café encore fumant. « Vu le nombre de gobelets dans la poubelle, vous devez en être une grande consommatrice. » L'inspectrice se leva et, gênée, réajusta le bas de son pull. En d'autres circonstances, Dansel, la trentaine, aurait été le genre de type à la brancher, mais pas à 8 heures du matin dans une chambre d'hôpital. « Merci. La nuit n'a pas été trop difficile ?» « Ça va, je suis un animal nocturne, je vois. J'ai des résultats à vous communiquer. En fait, je dois vous avouer que c'est la première fois que, avec mes confrères, nous sommes face à un cas pareil. Nous allons effectuer d'autres examens, plus approfondis, mais à ce stade, quelque chose nous échappe. » Florence l'accompagna jusqu'au bord du lit. « Essayez toujours de m'expliquer ce que vous avez découvert. Tout d'abord, les muqueuses. Regardez. » Il retroussa les lèvres de sa patiente, dévoilant des zones noires et brillantes, puis lui ouvrit la bouche. La pointe de la langue semblait en phase de décomposition. Florence plissa le nez. Odeur de pourriture. « Elles sont nécrosées, » expliqua Dansel. « Comme une gangrène ? » ?»« Pas à ce point-là, mais ça pourrait vite le devenir sans soins appropriés. Il y a aussi ses éruptions cutanées, gorge, épaules, bras, et sa pupille droite qui est non réactive à la lumière. « Aveugle, vous voulez dire ?»« De cet œil, oui. » Pour finir, elle est insensible aux piqûres et autres stimuli au niveau de la peau, surtout aux extrémités des membres, ce qui signifie que ses fibres nerveuses sensitives sont détruites. Florence encaissait ces révélations. Qu'est-ce qui a pu provoquer de tels dégâts? Pour le moment, je vous l'ai dit, nous l'ignorons. Aucun des médecins qui l'ont ausculté n'a jamais été confronté à autant de symptômes chez une même personne. On a sollicité le service de toxico pour qu'il cherche tout ce qui est drogue ou poison, mais rien de standard ne ressort de nos machines. Une autre victime de l'homme qu'on traque présentait aussi des plaques sur la peau. Le cadavre était en mauvais état, alors pour les nécroses, on ne sait pas. Mais les toxicologues de la police scientifique se cassent les dents depuis plusieurs jours sur un produit qui était dans son organisme. Dansel consulta l'alphapage qui bipait dans sa poche. Il lut le court message et reprit. Cette jeune femme est apathique, dépourvue de volonté. Elle se déplace au ralenti, droit devant elle, sans savoir où elle va, comme si elle avait subi un lavage de cerveau. Elle semble incapable de prononcer le moindre mot. On lui a fait un scanner cérébral. Certaines zones de l'hémisphère droit, liées aux émotions, sont peu actives, presque éteintes. Peut-être parce qu'elle est encore sous l'effet d'une substance. Peut-être, mais il ne s'agit ni d'héroïne, ni de cocaïne. Pas d'opiacé non plus, ni alcool, ni méthadone, anxiolytique ou barbiturique. Je pourrais encore vous en citer une dizaine que nous avons déjà éliminées. Florence se rappelait que Delphine avait été découverte seule dans la ferme et libre de circuler. Elle n'avait pas tenté de s'enfuir. Si personne n'était venu la secourir, elle se serait sans doute laissée mourir. Il y avait forcément quelque chose qui clochait. Alors quoi? Tout ça résulterait d'un traumatisme, d'un truc psychologique? Dansel observa sa patiente comme un botaniste face à une nouvelle espèce. L'inspectrice, elle, repensa aux énigmes sur lesquelles ils avaient buté depuis le début de leur enquête, aux difficultés qu'ils avaient eues à percer les secrets du méticuleux. Et maintenant, c'était au tour du corps médical de se heurter à cet esprit tordu. « Vous avez dit à mon collègue dans l'ambulance qu'elle avait été enterrée, » fit le médecin. « Vous avez parlé d'un cercueil, c'est bien ça ?»« Oui. On a trouvé une caisse en bois de taille humaine à l'arrière du bâtiment où elle s'était réfugiée. La caisse avait été déterrée, les clous du couvercle arrachés. On a supposé qu'elle y avait été enfermée. Est-ce qu'il y avait des traces de griffures à l'intérieur ?»« A priori, non, justement, d'après mes collègues. N'importe quel être vivant aurait tout fait pour sortir de là, aurait gratté jusqu'à se faire saigner. Peut-être était-elle déjà dans cet état d'apathie ?» Je ne crois pas. À quoi vous pensez ? Dansel hésita, puis entraîna Florence à l'écart, près de la porte de la chambre. Je vais aller au plus simple. Les résultats des premières analyses sanguines ont révélé une quantité anormalement forte de certains marqueurs cardiaques. Ces marqueurs sont souvent le signe d'un dysfonctionnement, d'un problème au cœur. De ce fait, nous avons réalisé une IRM cardiaque après injection d'un agent de contraste permettant de distinguer d'éventuelles anomalies. Il réfléchit, sembla peser chacun de ses mots. Florence le sentait ennuyé. Son ventricule gauche est en grande partie nécrosé. Les cellules sont mortes. Divers indicateurs, comme le courant de lésions sous-épicardiques, nous informent que l'atteinte des tissus remonte à une période que j'estime à moins d'un mois. Moins d'un mois. Le 15 novembre, Delphine avait quitté le Marais pour Saint-Forget. Peut-être était-elle déjà entre les mains de son bourreau. On constate d'ordinaire ce genre de nécrose chez les patients victimes d'un infarctus, mais on dépasse rarement les 25% de zones affectées chez les malades qu'on prend à temps. À partir de 40%, c'est le choc cardiogénique, poursuivit-il. C'est-à-dire? Une défaillance aiguë de la pompe cardiaque qui tourne au ralenti, sans force. Elle entraîne une incapacité à générer un débit sanguin suffisant pour subvenir aux besoins des organes périphériques. Surtout si ça dure trop longtemps. Le cerveau peut évidemment souffrir de ce manque d'oxygène. Dans la moitié des cas, les patients décèdent. Les autres gardent de graves séquelles neurologiques. Florence ne lâchait pas Delphine des yeux. La jeune femme lui faisait de la peine. Elle était vivante, certes, mais ne se remettrait jamais de tout ça, tant psychologiquement que physiquement. « Et ici, on est à quel pourcentage ?» demanda-t-elle. « Environ 50%. Pour être honnête, j'ai rarement pu observer une telle ampleur de la nécrose. Et chaque fois, le cœur s'est arrêté de battre durant plusieurs minutes, voire définitivement. » Dans le silence uniquement rompu par les bips des appareils, sa voix claqua comme un coup de fouet. J'ignore comment ça s'est produit, j'ignore ce qui a pu se passer dans ce cercueil. Mais votre victime, ma patiente, à un moment donné, on peut considérer qu'elle n'était plus de ce monde. Il plongea son regard dans celui de Florence. Elle était morte.